Alors nous allons revenir à ce que nous avons fait, hein, avec bien des pauses, mais ce survol de l'Ancien Testament. Et nous allons considérer ce matin le livre de Samuel, sachant que Samuel, c'est vraiment un seul livre. Ça a été divisé il y a très longtemps par des scribes, parce que à l'époque, comme vous le savez, on faisait des rouleaux. On n'avait pas des livres, même comme nous aujourd'hui, avec des reliures. Donc vraiment, c'était les rouleaux. Et ça devenait rapidement très, très lourd et difficile à transporter, etc. Donc, les plus grands livres, ils ont divisé les psaumes. C'est divisé en 5 livres. Samuel, les rois, les chroniques, divisés en 2. Et puis, vous avez certains livres qui ont été simplement ajoutés à d'autres. Les petits prophètes, souvent, c'est tout ensemble dans le même rouleau. Ruth était ajoutée au rouleau de juges, etc. Donc, c'est les livres, ou le livre, si vous préférez, de Samuel. Alors, trouvez Juges d'abord 17. Juges chapitre 17, donc juste avant 1 et 2 Samuel. Et quelqu'un peut lire le verset 6.
En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait beau.
Voilà. Tu peux. Seul va me lire la première phrase du chapitre 18, juste la première phrase. On va te faire lire un peu.
En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël.
Voilà, très bien. Et la première phrase du chapitre 19. Voilà, et puis le tout dernier, la toute dernière phrase du livre. 21-25. La dernière chose qui nous est dit.
Quel chapitre,
s'il vous plaît? 21. Dernier chapitre et le dernier verset. Voilà.
En ce temps, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait.
Voilà. Donc, avant ces histoires à la fin, et puis tout encore à la fin, qu'est-ce qui est souligné dans les juges? Il n'y avait pas de roi. Il n'y avait pas de roi. C'est présenté comme, en fait, une lacune. Et donc chacun faisait ce qui était droit ou bon à ses propres yeux ou ce qui lui semblait bon. Donc on a souligné pour nous le besoin d'un roi. Et nous avons dit, quand on a vu tout le survol, que les 5 premiers livres qui parlent de la loi nous disent surtout qu'il nous faut un sacrificateur parfait. Après, les livres historiques, ils nous montrent qu'il nous faut un roi parfait. Et après, lorsqu'on lit les prophètes, on est laissé avec le sentiment qu'il nous faut un prophète aussi parfait, hein, qui peut vraiment parler aux gens et les gens vont vraiment écouter, parce qu'eux, ils n'ont pas réussi dans leur mission. Donc, on arrive à la fin de l'Ancien Testament. Et on sent ce besoin pour un sacrificateur parfait, un roi parfait et un prophète parfait, qui serait donc un sauveur dans les 3 sens. Sauveur en tant que sacrificateur, en tant que roi et en tant que prophète. Donc, on a besoin d'un roi. Et ce qu'on va lire en 1 et 2 Samuel, eh bien, c'est par rapport au roi. Mais le nom de ces livres ne porte pas le nom d'un roi. Ça porte le nom d'un prophète. Et vraiment, dans un sens, un des premiers des prophètes, après Moïse. En acte, il va dire, depuis Samuel, tous les prophètes ont prophétisé. Et après, il parle de Jésus. Donc, il a un rôle très important. Et donc, il y a Samuel. Qui sont les deux autres personnages dans ces deux livres? Les deux autres personnages principaux de 1 et de Samuel. Ce sont des rois. Hein? Donc, il y a Saül et puis David. Donc, c'est des livres qui sont intéressants à lire, assez faciles à lire. Certains des histoires les plus connues, comme David et Goliath, se trouvent dans ce livre. Et ça nous présente donc le royaume, le roi qui va régner pour la première fois sur Israël. Donc, vous avez la structure qui vous est donnée ici sur la première page. Hein, le jugement de Samuel, pas le sens qu'il est juge, mais le jugement qu'il donne, hein, il règne comme les juges dans le livre des juges. Hein, et c'est lui qui aura cette autorité politique au début. Et puis, il y a l'avènement de Saül. Et puis, tristement, le déclin de ce roi. Et en même temps, l'ascension de David. Et tout cela prend très longtemps. Beaucoup de patience pour David qui doit attendre. Et puis, au début de 2 Samuel, David devient roi de Juda seulement. Et puis, à partir du chapitre 5, il devient roi de tout Israël. Et ça nous amène donc dans tout son règne. Donc, le thème, c'est cette idée de roi, un roi en Israël. Nous avons eu le sacrificateur, les 5 premiers livres. Puis nous avons eu Josué. Et puis les juges qui étaient en gros de la catastrophe. Hein. Et maintenant il y a Samuel, et puis Saül, et puis David. Dieu va régner et va diriger son peuple à travers ces personnages. Et donc, vous avez ici, en bas de la page 1, notez les points suivants. La théocratie, c'est quoi la théocratie? Voilà, le règne de Dieu, exactement. Théo, donc Dieu. Donc, Dieu voulait régner sur son peuple. Mais son règne était généralement incarné par un leader humain. Même avant cela, on peut parler de Moïse, de Josué, des anciens et des juges. Et puis, on peut noter deuxièmement qu'une monarchie faisait partie du plan originel de bénédiction de Dieu pour le peuple, pour la nation, pour la théocratie. C'est-à-dire, Dieu avait déjà annoncé, et on peut le lire même en Deutéronome, etc., il va parler du roi qui va venir, Dieu avait déjà annoncé qui comptait régner sur son peuple à travers un roi. Donc, il faut pas penser que c'est un péché de désirer un roi. Ce n'était pas ça le problème. Dieu l'avait déjà annoncé cela. C'était plutôt une question de leur timing. C'est-à-dire, à la fin de cette première page, au lieu de chercher la volonté de Dieu pour eux à ce moment-là, ils ont agi avec impatience, cherchant par eux-mêmes un changement. Et c'est dommage, on peut pas. Je dois un peu vous parler de ce qui est là, en présumant que vous connaissez un peu l'histoire. Mais sinon, j'avoue que vous êtes un peu dans un handicap si vous n'avez pas lu. Et donc, à vous de régler ce problème et de bien lire ces histoires. Mais vous savez qu'au début, il y a Samuel qui règne et le peuple demande, voire on peut dire exige, un roi. Parce qu'ils disent, on veut être comme qui? Voilà, on veut être comme les autres pays. Et Samuel, il est vraiment triste, il va devant le Seigneur, il dit, mais voilà, il sait que ce n'est pas bien ce qu'il demande. Mais Dieu lui dit, non, tu avances, hein, tu vas leur donner un roi. S'ils avaient été, là sur la page 2, s'ils avaient été prêts à attendre quelques années, David, qui est l'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, aurait été prêt à prendre la tête du pays. Mais puisqu'ils insistent et ils veulent maintenant un roi, Dieu leur donne Saül. C'est la meilleure option, on peut dire, disponible à l'époque, mais un homme très imparfait. Et Dieu fait ça en réponse à leur prière. Où est-ce qu'on a déjà vu dans la Bible que Dieu répond à une prière, même quand ce n'est pas, on va dire, sa volonté parfaite pour eux? Ok, on dit Sodome et Gomorre avec Abraham. Oui, Balaam. Ok, Balaam, c'est un très bel exemple aussi. Hein. Je lui dis, bon, ok, tu peux aller. Pardon? Le peuple dans le désert, hein, il demande, qu'est-ce qu'il demande à manger? Voilà, et finalement, Dieu dit oui. Dieu dit oui. Donc, il faut déjà qu'on prenne ça comme leçon. Parfois, on peut être très impatient avec Dieu, on veut une réponse maintenant. Et on exige de Dieu qu'il fasse quelque chose, et parfois, il répond. Mais à cause de notre impatience, nous recevons quelque chose, en fait, qui va nous causer des soucis et des problèmes dans l'avenir. Et Dieu n'était pas, bien sûr, obligé à répondre, mais il va le faire. Et dans sa grâce, et ça aussi, parce que peut-être on peut regarder en arrière et dire, oui, j'ai fait ça, je me sais. Vous savez, même dans sa grâce, c'est vrai, parfois on souffre même, mais ce n'est pas que souffrance. Dans sa grâce, Dieu nous fait du bien, même à travers nos péchés. Et là aussi, on verra des exemples avec Salomon, par exemple. Il est le fils d'une femme avec qui David avait commis l'adultère. Il n'aurait pas dû le faire. Et il a souffert beaucoup à cause de ça. Mais même à travers ça, Dieu a montré grâce. Alors, les femmes ont parlé de Ruth et son mari qui quitte Bethléem. Et il souffre aussi à cause de ça. Mais même à travers ça, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu montre beaucoup de grâce et donne à Noémie Ruth. Donc, on voit Dieu, il nous ne punit pas selon nos péchés. Hein. Il ne nous traite pas selon nos iniquités. Mais même quand il est en train de nous discipliner, il sait utiliser même notre péché pour faire abonder encore plus à sa grâce. Donc il y a une question de timing, une question d'impatience. Je veux maintenant un roi. Et plus crucial encore, c'était ses motivations erronées dont on vient de parler. Il voulait être comme toutes les nations. Qui veut dire, en somme, qu'ils rejetaient Dieu comme leur roi. Ils voulaient être comme les autres nations. Dieu les avait mis à part, il les avait séparés. Il a dit, vous êtes à moi, vous êtes un peuple saint. Vous êtes distinct de tous les autres. Non, nous, on veut être comme les autres nations. Et là encore, il y a une leçon pour nous aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens souffrent dans leur vie parce que leur motivation, c'est qu'ils veulent être comme les autres nations, comme le peuple, qui n'ont même pas de Dieu. Donc, est-ce que Dieu leur dit, ok, prenez un roi, je m'en vais, je vous abandonne? Est-ce que c'est ça qu'il fait dans 1 et 2 Samuel? Pas du tout. Ce qu'on voit, c'est que Dieu, il continue à œuvrer, il continue à faire avancer son plan, et il ne perd jamais contrôle. Et ça aussi, c'est un réconfort pour notre vie. Dieu n'a jamais perdu contrôle de votre vie. Vous pouvez regarder en arrière et dire, ouh, tous les péchés que j'ai commis, j'aurais jamais dû faire ça, jamais dû faire ça, jamais dû faire ça. Vous savez, Dieu le savait tout au long, il n'a jamais perdu le contrôle. Il est là encore aujourd'hui pour régner dans votre vie. Donc ce qu'on voit ici, page 2, c'est que Yahvé, ou l'Éternel, hein, c'est le nom hébreu pour ce qui est traduit en français « éternel », Yahvé, il règne indépendamment des dirigeants humains. Et si vous tournez la page, vous verrez la lettre B, Yahvé règne à travers les dirigeants humains. Okay, c'est ces deux points qu'on veut considérer dans ces deux livres. Il règne d'abord indépendamment des dirigeants humains. Ou on peut dire en dépit d'eux, ou malgré les dirigeants humains. Ça aussi, encore une leçon très très pratique pour nous, parce que nous on lit de Saül, et on lit de David, et on lit de Samuel, mais la plupart du peuple vivait sous l'autorité de ces hommes. C'est-à-dire, ils subissaient leur choix. Un jeune homme, Saül, il appelle à l'armée, qu'est-ce qu'il peut faire? Il doit quitter sa maison, il doit quitter son père, il doit partir à l'armée. Il est dans un sens esclave de ce que le roi veut faire, s'il veut faire la guerre ou pas faire la guerre, etc. Donc, c'est très réconfortant de savoir que Dieu, non, il dirige malgré, en fait, nos autorités. Qui ici n'a aucune autorité au-dessus d'eux? Personne. Personne. Et parfois, beaucoup de notre inquiétude, notre douleur même, proviennent du fait que ces autorités ne suivent pas Dieu comme ils devraient le faire. Eh bien, ça a été le cas pour tous ces gens qui ont vécu à cette époque. Donc, notons les désignations de souveraineté qui sont données à Dieu. Il est appelé pour la première fois ici dans ce livre, Yahvé des armées, ou l'Éternel des armées. C'était un titre militaire qui le désigne comme le chef suprême des armées célestes, même des anges. Et donc c'est lui qui règne. Il est le commandant, il est le général, il est l'Éternel des armées. Et dans le même livre où on a pour la première fois un roi humain, on a Dieu qui donne ce titre de chef, l'Éternel des armées. Et puis nous lisons très souvent dans ces deux livres parler de la main de l'Éternel. La main de Yahvé ou la main de l'Éternel. On appelle ça un anthropomorphisme, qui veut dire quoi? Qu'on attribue à Dieu des qualités humaines. Donc la main de Dieu, ou l'oreille de Dieu, ou les yeux de Dieu. Bon, Dieu est esprit, il n'a pas d'oreille, il n'a pas de main, mais pour nous aider à mieux comprendre, la main de Dieu serait son contrôle. Ça parle surtout de son contrôle. Parce que c'est avec la main qu'un parent va prendre un enfant, etc. Ou si on est arrêté par la police, ils vont être leurs mains sur nous. Donc la main de Dieu parle de son contrôle. Donc quand Pierre dit aux chrétiens, soumettez-vous sous quoi? La main puissante de Dieu. Il est en train de nous dire, la main puissante de Dieu, c'est quoi? Son contrôle de notre vie, de nos circonstances. Ce n'est pas juste, oh, je soumets à Dieu. Non, non, je soumets à la main de Dieu, son contrôle dans ma vie. Il me pousse vers là, moi je veux aller vers là. Arrête, arrête. Vous n'avez jamais pris un enfant? Moi je le fais très souvent. Vous le mettez sur vos genoux. On sent qu'ils veulent être ailleurs. Mais non, on lâche pas. On lâche pas jusqu'à finalement, l'enfant accepte. Et tu peux relâcher un peu tes mains et savoir qu'il ne va pas partir en flèche. Et c'est ce que Dieu nous dit de faire. Soumettez-vous sous la main puissante de Dieu. Acceptez son contrôle de vos circonstances. Et là, on le voit très souvent. Lisant ces deux livres, je vous encourage de noter, peut-être de souligner en bleu ou dans une couleur spécifique. Chaque fois, vous voyez que Dieu contrôle la situation, que c'est lui qui intervient, que c'est lui qui décide. Parce que pour nous, les chrétiens, la souveraineté de Dieu, le contrôle de Dieu sur nos circonstances, c'est de l'oreiller sur lequel nous pouvons coucher le soir, de savoir que Dieu contrôle tout. C'est très beau. Donc, il y a ces titres pour Dieu ou ces désignations. Et puis, deuxièmement, il y a ces actions. Avec ou sans l'expression « la main de Yahvé », l'auteur attribue 76 fois à Yahvé la responsabilité ultime d'une variété d'événements sur la terre. Et ça inclut, par exemple, la stérilité, le fait de ne pas avoir d'enfant, ou Anne, après, où Dieu lui donne un enfant. Donc, des choses très, très personnelles, individuelles pour une femme. Voilà, Dieu est souverain sur ça. Mais aussi des victoires militaires et le contournement de conseils avisés qui sont donnés à quelqu'un et puis Dieu va contourner pour que les gens, en fait, ne suivent pas le bon conseil, mais suivent le mauvais conseil. Donc on voit dans tous ces domaines, privés, publics, individuels, au niveau de la nation, on voit que Dieu intervient et il contrôle. Et là aussi encore, on doit se dire, Dieu, il paraît encore, aujourd'hui, il contrôle. Les hommes ne le voient pas, ils ne le reconnaissent pas, mais Dieu contrôle toujours. Et ça peut faire croître notre foi. Et puis nous avons en bas de page 2 les accomplissements de prophétie. 40 fois, les actions de Dieu se réalisent ses prédictions antérieures, comme le jugement sur la famille de David, même sur les enfants d'Élie, par exemple, même encore sur la famille de Samuel aussi. Enfin, plusieurs fois, il y a des jugements qui sont annoncés ou des promesses. Par exemple, David est roi pour être roi, et puis voilà, ça arrive. En lisant le livre, ça arrive. Contre toute attente, contre tout ce que peut faire Saül contre lui, David devient roi. Dieu tient sa parole. C'est pas tout de suite. Ça a pris beaucoup de patience, des années à attendre, mais Dieu tenu à sa parole. Et puis sur la page 3, on voit aussi Dieu en train d'humilier les orgueilleux et d'exalter les humbles. Donc, le premier exemple de cela, c'est une femme qui est maltraitée par une autre femme dans sa maison. Elle s'appelle Anne et elle est moquée par cette autre femme parce qu'elle n'a pas d'enfant. Et son esprit est vexé, tous les jours vexé. Et surtout à l'époque de l'année où ils vont se déplacer, vont voyager pour aller jusqu'au tabernacle et offrir des sacrifices à l'Éternel. Et elle est humiliée, elle est rabaissée. Mais Dieu intervient et il va l'exalter. On voit ça avec la famille d'Élie, aussi dans le mauvais sens. Ses enfants se sont permis des immoralités, des injustices, des vols, parce qu'ils avaient cette position de sacrificateur et fils du souverain sacrificateur qui était Élie. Et Dieu, en fait, il va les rabaisser, ils vont mourir à la guerre. Ça parle de Joab, d'Abishai, ces hommes de sang. David dit, ils se sont forcés, se sont élevés. Eux, ils restent longtemps. Joab, il va vivre même plus longtemps que David. Mais il est orgueilleux, c'est un homme extrêmement orgueilleux. Et Dieu va l'abaisser et l'humilier. Et puis, nous avons un psaume de délivrance de David vers la fin de 2 Samuel. Et ça reprend ces mêmes thèmes d'humilité et d'exaltation. Et ça devient donc cet aspect central de relation entre Dieu et les monarques. Dieu va dire à un moment, je crois que c'est à Saül, quand tu étais petit à tes propres yeux. Voilà. Mais le problème, c'est que vous êtes devenu orgueilleux. Et la Bible dit que l'orgueil précède la chute. On peut le voir ici. Saül, très très humble au début, très humble. Il ne veut même pas prendre la royauté sur lui. Mais il est élevé par le peuple et il se laisse donc être élevé dans sa pensée. Et il arrive un moment où il est tellement orgueilleux qu'il va désobéir à Dieu. D'accord, donc est-ce que vous êtes convaincu que l'Éternel règne malgré ou indépendamment des hommes, même les plus puissants? Dieu règne sur toutes ces situations. 1 et 2 Samuel peut booster votre foi dans un Dieu qui règne. Mais lettre B sur la page 3, nous voyons que l'Éternel règne à travers aussi des dirigeants humains. Donc ça, je pense que c'est important de le dire, la première phrase là, le fait qu'Israël est maintenant un roi humain ne modifie pas fondamentalement la nature théocratique de la nation. Dieu avait déjà régné à travers Abraham, Isaac, puis à travers Moïse, Josué, les juges, Samuel. Il veut faire de même avec Saül et David. Malgré le fait qu'ils ont maintenant le titre et le statut de roi, ne change pas le fait que c'est toujours Dieu qui règne et eux, ils doivent toujours se soumettre à lui. Donc on voit que Yahvé, il choisit, il habilite, il établit des dirigeants humains. On a parlé de ces trois personnages. Samuel, il est tout petit au début. Et tout petit, il apprend à dire « Seigneur, parle, car ton serviteur, quoi ?» Il écoute. Et en même temps, nous apprenons, parce que la première chose que Dieu lui dit, c'est le rejet d'Élie et de sa famille à cause de son orgueil et de sa désobéissance. Donc lui, il devient le porte-parole, il devient le prophète de Dieu. Après, il y a Saül qui arrive. Et on voit, bon, j'ai déjà mentionné qu'il était très humble au début. Rappelez ce que ça dit de Benjamin à la fin des juges, Benjamin était presque décimé. Ils ont dû aller par force trouver des femmes pour des Benjamites parce que toutes les autres tribus avaient refusé de donner leurs filles aux hommes de ce tribu. Mais c'est vraiment une tribu qui était presque mise à part. Et Dieu va prendre quelqu'un des plus petits, de la plus petite des tribus. Mais l'Esprit vient sur lui et il va même lui-même prophétiser. On voit que l'Esprit est sur lui pour l'habilité, pour lui donner la force, la sagesse dont il a besoin. Et encore, c'est la même chose avec David. Il commence très petit. Vous vous rappelez, même Samuel, il dit, certainement ça va être lui. Il voit le grand frère de David. Et Dieu dit quoi ? Non, et puis il va juste tous ses frères. Finalement, il dit, bon, est-ce qu'il y a un autre frère ? Et même le papa l'avait oublié. Même le papa avait dit, ça ne peut pas être lui, donc on va le laisser avec les brebis. Et on dit, non, on va le chercher. Et c'est lui que Dieu choisit. Et puis, Dieu lui donne, même parce que ses frères, ça revient un peu dans l'histoire, où ils vont se moquer de lui, et Dieu lui donne après la victoire sur Goliath, malgré tout cela. Donc on voit que c'est Dieu qui choisit, et c'est Dieu qui donne la force pour exercer ce ministère. Et puis, numéro 2, nous voyons que Dieu aussi, l'Éternel, Yahvé, il évalue et juge les dirigeants humains. Ils n'ont pas le droit de faire n'importe quoi. Ils vivent sous l'autorité de Dieu. Ils sont tenus responsables devant Dieu. Ils n'ont pas une autorité ultime. Et très souvent, ils sont appelés princes dans l'hébreu, qui suggère que leur autorité est subordonnée à celle de Yahvé. Alors dans la NEG, c'est toujours, j'ai regardé, c'est toujours traduit comme chef. C'est établi comme chef de mon peuple. Mais en fait, c'est le mot prince. Et le prince, ce n'est pas l'ultime. Hein. Il ne dit pas roi, il est prince. C'est-à-dire qu'il a toujours quand même quelqu'un au-dessus de lui. Dieu le voit comme son prince. Et puis David, il est un berger. Hein. Ça souligne la douceur avec laquelle les rois devaient gouverner. Et puis Dieu va les humilier, Dieu va les traiter. Même David, Saül, il va les traiter, il va les discipliner quand ils pêchent. Donc on voit que Dieu évalue les dirigeants humains, et surtout dans deux catégories. La catégorie de l'adoration du peuple de Dieu. Saül est un exemple ici. Hein, qu'est-ce que Saül fait qui est vraiment grave dans ce domaine? Voilà, il sacrifie un sacrifice à Dieu lorsqu'en tant que roi, il n'avait pas le droit, n'est-ce pas, qui devait le faire? Ça devait être Samuel qui le fasse, en tant que lévite, en tant que sacrificateur, mais pas lui en tant que benjamite et en tant que roi. Et il le fait. Et il pense, même en le faisant, qu'il doit le faire. Il est obligé de le faire. Et sa pensée, bon, c'est intéressant, hein, on reviendra. On a fait toute une étude une fois là-dessus, mais sa pensée est très pragmatique. Hein, les hommes commencent à disparaître. Dans la nature, son armée même, il diminue, il voit l'ennemi approcher, il est en panique, et donc il veut sacrifier quelque chose avant d'aller à la guerre, donc il décide de le faire lui-même. Il y a une autre histoire avec David, où Dieu est très sévère aussi dans ce même domaine de l'adoration. C'est quoi?
Il s'agit de compter l'armée, mais le...
Oui, oui, ok, compter l'armée, oui, mais ça, oui, on y reviendra, ça c'était une désobéissance aussi, oui. Mais je pensais surtout à l'adoration. Pardon?
C'est les fils de l'arche.
Voilà, exactement, l'arche. Hein, où David va faire venir l'arche jusqu'à Jérusalem. Et là, il y a quelqu'un qui perd sa vie, hein, sous la colère de Dieu. Dieu dit, ça aurait été mieux si ça tombe par terre, le sol est moins pollué que la main, son nom est parti, Uza, merci, Uza. Et donc, voilà, et donc et David, il est fâché au début, et puis il est dit, il y a beaucoup de crainte envers l'Éternel. Donc, les rois avaient une responsabilité aussi quant à l'adoration de Dieu. Et là aussi, je veux juste faire une petite application aussi. La chose la plus importante que nous pouvons faire, c'est notre adoration ensemble devant Dieu. On est là devant le monde, on est devant Dieu, on dit « voici le Dieu que nous adorons ». On ne peut pas le prendre à la légère. On doit être bien réfléchi et soumis à Dieu dans ces choses. Donc il y a l'adoration, et puis sur la dernière page, il y a aussi juste des questions d'obéissance. À un commandement. Quand Saül pêche contre Dieu, Dieu lui dit tout de suite, t'as perdu ta royauté. Je vais choisir quelqu'un d'une autre famille, d'une autre tribu. Mais aussi souligné dans ses livres, c'est un gros péché de David. C'est quoi son péché? sous cette question de voilà, Bathsheba et puis son mari. Hein, il tue le mari comme elle a adultère avec sa femme. Et Nathan vient rappeler, il confronte David, il lui raconte une histoire. Et après, il lui dit, c'est toi l'homme. Donc on voit déjà l'autorité de Dieu sur David, qui utilise un prophète. David doit toujours se soumettre. Et Nathan dit à David, tu auras maintenant des soucis dans ta maison jusqu'à la fin de tes jours. Ce qui était vrai. Et pourtant, bien sûr, Dieu lui manque beaucoup de grâce. Et Dieu ne le tue pas. Plus tard, David est émerveillé par ça. Il va des psaumes même de reconnaissance et de louange à Dieu parce qu'il dit, mais Saül était éliminé. Et moi, j'ai fait pire que lui. Et Dieu me montre grâce. Et bien sûr, parce que c'est une grâce, Dieu n'a pas besoin de montrer la même grâce à tout le monde. Ce ne serait plus une grâce, ce serait un dû. Parfois, ça nous dérange. Si Dieu donne ça à un tel, pourquoi il ne donne pas les mêmes occasions et opportunités aux autres ? Non, parce que c'est une grâce. C'est une grâce. Et puis, il y a numéro 3, là, sur la quatrième page. Il y a cette promesse que Dieu enverra le leader parfait. C'est-à-dire, Dieu dit plus que, OK, je vais contrôler malgré ces leaders. Il va leur dire dans ces mêmes livres, je vais vous envoyer le leader parfait. Tout cela se trouve en 2 Samuel 7. C'est peut-être le summum de tous ces deux livres. Hein. C'est l'alliance que Dieu va faire avec David. Et c'est dans le contexte où David dit, écoute, moi je veux bâtir une maison pour l'Éternel. Et le prophète vient lui dire, vas-y, fais-le. Et puis il revient, il dit, non, en fait, Dieu ne veut pas que tu le fasses. Mais, le prophète lui dit, l'Éternel va te donner une maison. Et c'est le même mot. Mais la maison que Dieu va donner à David, c'est une postérité. Et il lui dit, en fait, tu auras un roi qui régnera, tu auras un fils qui régnera éternellement. Et Jésus est le fils de David. Et il est humain, il est physiquement hein, le fils de David, et il règne et il régnera aussi éternellement en tant qu'homme. En tant qu'homme. Et donc on voit que Dieu va se servir même d'un leader parfait pour régner sur son peuple. Alors, pour terminer, on pourrait faire beaucoup d'applications, mais voici trois qui nous sont suggérées. Tout d'abord, étant donné que les desseins de Dieu finissent toujours par l'emporter, la rébellion n'a aucun sens. Si seulement on avait su cela quand nous étions jeunes, n'est-ce pas ? La rébellion n'a aucun sens. Jonas, ça n'a pas marché. Les fils d'Élie, ça n'a pas marché. Les fils de Samuel, ça n'a pas marché. Saül, ça n'a pas marché. David, à un moment, il dit, moi, je vais faire des choses comme je le veux. Ça n'a pas marché. Mais lui, il a des fils. Absalom, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, les fins tragiques de ces personnes illustrent la folie de voir imposer notre volonté sur Dieu et sur sa direction préétablie. Et ça, c'est une bénédiction de lire ces parties historiques de la Bible. On doit les lire en famille, on doit les lire individuellement, parce qu'on peut réaliser, on peut suivre un choix. Quelqu'un fait un choix. Aujourd'hui, on fait un choix. On a 20 ans, on a 21 ans, on a 25 ans, on a 40 ans, on fait un choix. Il faut attendre pour voir où ça va mener. Mais quand on lit la Bible, on peut voir, OK, Saül a fait ce choix, et on peut parcourir des années, hein, 30, 40 ans, juste en lisant rapidement, et on peut voir où ce choix l'a mené. Donc, voilà, la rébellion n'a aucun sens. Deuxièmement, ceux qui dirigent le peuple de Dieu portent une lourde responsabilité. Nous sommes, hein, des dirigeants, hein, nous sommes des sous-bergers, pas des seigneurs. Et nous ne devons pas utiliser nos positions pour promouvoir des intérêts personnels. C'est dans le contexte, dans ce contexte, l'exemple de David réside dans sa préoccupation de consulter la volonté du Seigneur avant de prendre des décisions. Il priait, on le voit souvent, il priait Dieu, même par rapport à quand il fallait attaquer l'ennemi, etc. Mais dans le côté négatif, on le voit qu'il va prendre deux de ses sujets, un homme et une femme. Il va se servir de sa position de roi pour dire à Joab, allez, tu laisses faire tuer. En fait, il va utiliser sa position pour ses propres fins personnelles. Et ça termine encore dans le chaos où Dieu doit l'humilier publiquement. Il y a des femmes de David qui vont être humiliées à cause de ce péché. Donc ça, c'est bon pour un pasteur, c'est bon pour un diacre, c'est bon pour un parent aussi. On ne se sert pas de notre position de parent pour se faire servir. C'est bon pour un mari. Quiconque a une autorité, la tentation, c'est de l'utiliser pour soi. Et enfin, ceux qui souffrent sous un mauvais leadership peuvent être assurés que le Seigneur n'a pas perdu le contrôle. Il gouverne toutes les autorités en place, comme dit Romains 13, et utilise même les choix égoïstes des dirigeants malveillants pour accomplir ses desseins. Voilà, on peut être vraiment, on doit subir parfois, les enfants doivent subir les choix de leurs parents. Il faut savoir que Dieu, quand même, il règne même sur les parents. Il ne vous a pas oublié. Même si vous êtes comme Anne, il ne vous a pas oublié. Et il peut se servir de toutes ces choses, même pour votre bien. Donc j'espère que ça vous donne goût, envie de relire, et de Samuel, ou de l'écouter en audio, pourquoi pas, si vous êtes dans le métro, même, ou dans les oreillettes, ou dans la voiture. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour réécouter 1 et 2 Samuel, bien lu, comme ça existe sur Internet. Et même rapidement, ça fait un survol. Et puis de réfléchir à ces choses en les écoutant, je suis sûr que ça va nourrir votre esprit et aussi affermir votre foi.